Est-ce que vous pouvez vous présenter?
François Piettre, voilà, je suis un des membres fondateurs de Banque Publique. J'habite sur la place Aristide-Briand et vous pouvez voir par la fenêtre là le drame qui depuis un an, même 15 mois, se déroule ici. Et donc voilà, je suis vent debout contre ce drame parce que je suis venu ici pour mourir tranquille, pas pour voir cette horreur.
Tu m'envoies le chantier donc de parking souterrain de la place Aristide-Briand par la fenêtre. Vous avez dit, il y a eu une conférence de presse pour la création du groupe local Greenpeace 7. Vous avez dit à l'occasion de cette conférence de presse que vous avez perdu la bataille des arbres et que maintenant commençait la bataille de l'eau. Qu'est-ce que vous entendiez exactement par là?
On a perdu une première bataille qui était la bataille du kiosque. Ils ont détruit un kiosque datant de 1882, qui était donc un monument historique et qui a toute une histoire, y compris l'histoire du donateur. Enfin, ça faisait partie vraiment de l'histoire de Sète. Le kiosque a été détruit, il y avait un permis de démolir le kiosque. On a attaqué, évidemment, et on a perdu. Donc, ils ont démoli le kiosque.
La mairie a annoncé qu'ils allaient le reconstruire.
Oui, mais ça, on n'a aucune garantie qu'il soit reconstruit. Ce kiosque était. On avait fait nous-mêmes une expertise du kiosque et nous savions qu'il était en mauvais état et qu'il faut le restaurer. Et c'est une restauration, comme tous les monuments historiques, difficile. C'est une construction métallique du temps de Eiffel, donc la même construction de la tour Eiffel. Mais le problème, c'est que la tour Eiffel a été entretenue avec un certain type de peinture très particulière qui n'existe que pour la tour Eiffel et que le kiosque n'a pas été entretenu de la même manière. Donc le fer, en l'occurrence, c'est un alliage qui d'ailleurs a été interdit à partir de 1907. C'est un alliage qui, quand il se corrose, se dégrade, tout se soude et ça devient. On ne peut pas. Il faut tout refaire. Tout refaire, c'est très compliqué. De le refaire même avec d'autres alliages, c'est très compliqué. En fait, il faut reconstruire, mais restaurer complètement, en refabriquant tous les poteaux métalliques et même la charpente métallique doivent être faites. Donc ça, on n'a aucune garantie parce que ça coûte très cher. Très cher. Et on ne sait pas du tout si ça sera fait. Quand on voit les images qui sont sur les palissades, les photos, ce n'est pas du tout les images du kiosque qui a été détruit. C'est des images d'un kiosque moderne qui n'a rien à voir. Autrement dit, à notre avis, je ne suis pas Madame Soleil, mais je pense que le kiosque ne sera jamais reconstruit. Alors ça, c'est la première bataille. La deuxième bataille, ça a été la bataille des arbres. Puisqu'il y avait 50, il y avait 80 arbres, je ne sais plus combien, 84 arbres sur cette place depuis 2 siècles. Il faut savoir que c'était au 19e siècle, cette place qui était des maraîchers, des jardins, qu'on appelait les jardins royaux, ont été transformés en promenade avec des allées d'arbres remarquables depuis 1821. En l'occurrence, ces alignements ont été finis en 1841. Depuis 1841, ces alignements sont en place. Les platanes ont été remplacés une fois, après ils ont été remplacés une deuxième fois récemment, et remplacés par des tilleuls argentés, ce que font toutes les villes. Les tilleuls argentés sont des arbres très robustes, qui n'ont pas de maladies, qui ne demandent pas d'entretien. C'est beaucoup plus simple que les platanes et ces arbres qui peuvent pousser jusqu'à 40 mètres de hauteur. Et donc, c'est des arbres peut-être moins majestueux, moins grands que les platanes, mais qui sont des arbres qui peuvent vivre 400 ans. Donc, finalement, des tilleuls argentés, ce n'est pas forcément un mauvais choix, sauf qu'en termes écologiques, il vaut mieux mélanger les espèces, ne pas mettre qu'une seule espèce d'arbre, parce qu'en termes de biodiversité, ce n'est pas bon de mettre qu'une seule espèce. Voilà, ça, c'est un détail. De toute façon, on avait des arbres remarquables, on en avait 84. Et aujourd'hui, ils en ont retiré 82. 82 qu'ils ont déplantés, replantés près du stade de foot Louis-Michel. Et la replantation ne semble pas réussie, puisqu'actuellement, ces arbres sont en train de dépérir. Donc, on peut être très inquiet sur la reprise de ces arbres. Alors, la première année, ce n'est pas forcément significatif, parce qu'ils vivent sur leurs réserves. Donc, c'est la deuxième année, c'est l'année prochaine qu'on verra vraiment si ces arbres sont morts, ou s'y survivent, ou s'y revivent. Donc voilà, mais c'est quand même déjà en soi une catastrophe. Et surtout, ces arbres-là, ici, c'était la fraîcheur. Au mois de juillet dernier, sur le sol, le macadam, la température était à 60 degrés. Sous les arbres, elle était à 28 degrés. Donc c'est dire que les arbres, ça fait de l'ombre, et pour les gens en pleine canicule, c'est quand même mieux. En plus, chaque arbre évapore de l'eau chaque nuit, évapore des quantités importantes, c'est des centaines de litres d'eau là pour ces arbres actuels, ça peut aller à 1000, 1500 litres pour un tilleul adulte, d'eau rejetée dans l'air pendant la nuit. Donc on perd non seulement de l'ombre, mais on perd de l'humidité, de la fraîcheur, et donc même en termes climatiques, on perd de l'évaporation qui est nécessaire, je dirais, à l'équilibre climatique. Donc cette bataille, on l'a menée, on l'a gagnée dans un premier temps, puisqu'ils n'avaient pas l'autorisation de déplanter, et donc on a gagné dans un premier temps, ça a été suspendu, et en fin de parcours, cette suspension a été annulée par le juge, parce que le préfet a donné son autorisation. Donc ça a été une bataille difficile, emblématique, sur lequel les gens se sont beaucoup mobilisés, parce que c'était, comment dirais-je, ça signifiait la fraîcheur. En période de canicule et de réchauffement climatique, c'est vrai que les arbres en centre-ville, c'est vital. Et on sait très bien qu'ils ne pourront jamais reproduire cela. Ils disent qu'ils vont planter des arbres au-dessus du parking, mais ça va être dans des fosses longitudinales peu profondes. Et même s'ils replantent des tilleuls argentés, il faudra les changer tous les 15 ans. Donc ça sera des petits arbres. On aura une pépinière plutôt que d'avoir une forêt en gros, hein, bon, et pour prendre des images. Donc,
et alors, cette bataille de l'eau, alors ?
Elle se résume à plus... Enfin, d'une part, on sait qu'il y a de l'eau sous cette place. Les arbres en sont témoins, vous le voyez par la fenêtre, ici, on ne les arrose pas. Ils ne vivent pas ni avec de l'eau de mer, ni avec du rocher, et de la terre, bien sûr, mais de la terre irriguée, donc il y a bien de l'eau. Et quand on regarde les arbres par la fenêtre, c'est significatif. Vous en avez un, par exemple, qui a 2 mètres de plus que son voisin. Et pourtant, ils ont le même âge. Ça veut dire que l'eau n'est pas identique partout. Et ça caractérise assez bien le sous-sol de cette plage. Le sous-sol de cette plage, c'est un rocher karstique qui descend du Mont Saint-Clair et qui s'ennoie dans du sable, en dessous d'ici d'ailleurs, et avec de l'eau. La roche karstique est une roche qui est connue, très particulière, qui est faite de fissures et de poches, et de fissures longitudinales, enfin, dans tous les sens, dans lesquelles l'eau circule. Et donc c'est un immense réservoir d'eau. Et cet immense réservoir d'eau, c'est ce massif karstique qui va sous les tantos, sous les canaux, jusqu'à Metz et au-delà, tout l'ouest montpelliérain, jusqu'à Pézenas. Pas à l'ouest de Pézenas. Et donc ce massif, c'est un grand réservoir d'eau naturelle, de l'eau qui vient des eaux de pluie sur les Cévennes et qui s'amasse peu à peu là-dedans en profondeur, hein, et qui circule dans cette roche. Et donc elle circule là aussi. Elle circule, on ne sait pas ce terrain. Ce terrain, il n'y a pas eu d'études géologiques, hydrogéologiques suffisantes pour dessiner le terrain qu'il y a sous cette place, c'est-à-dire où sont les fissures, comment est cette roche, où sont les poches d'eau, comment elle circule, on ne sait pas. On sait qu'il y en a.
Il y a eu des sondages avant chantier ?
Non, justement. C'est un du gros problème. Il n'y a pas eu d'études hydrogéologiques. Il n'y en a pas eu. Alors qu'il aurait dû en avoir une. Nous, on a fait faire venir un expert hydrologique pour, sachant qu'il n'y avait pas d'études, pour qu'il nous dise ce qu'il en était. Sauf que lui n'a pas pu faire de sondage. Forcément, c'est une étude extérieure. Donc il s'est appuyé sur tous les documents existants en matière géologique du territoire pour faire des hypothèses. Et d'après lui, il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau. Combien, c'est très difficile à quantifier, et c'est d'autant plus difficile à quantifier que si on creuse en profondeur, l'eau peut ressurgir, cette roche karstique, l'eau peut venir d'en dessous, elle est très profonde. À Bédarieux, la roche karstique, elle descend jusqu'à moins 1500 mètres de profondeur. Donc là, on a ce réservoir d'eau sous les temps de taux, sous les canaux, en profondeur. Maintenant, il y a des résurgences régulières, à des endroits où l'eau ressort. Donc s'ils creusent, ils peuvent provoquer des résurgences, et donc ça veut dire que là, des sources qui peuvent être abondantes, mais quelle abondance, on ne sait pas, on est dans l'inconnu. On sait simplement qu'il y a de l'eau, qu'il y a beaucoup d'eau, et qu'il peut en avoir encore plus qu'on pense.
Il y a un mélange d'eau aussi salée et d'eau...
Non, si c'est de l'eau karstique, c'est de l'eau qui vient de la roche, elle est pas salée. Et quand on... Si elle est sur la roche, dans la roche, elle n'est pas salée. Ici, en bas de la place, et quand on va vers le canal, on est sur du sable, et là, l'eau qui descend, qui sort de la roche, qui va dans le sable, peut rejoindre l'eau salée. Et donc là, il peut y avoir de l'eau salée tout à fait en aval, près du canal. Mais en amont, lorsqu'on est en haut de la place, c'est sûr que c'est de l'eau claire. Et le puits, ici, dans cette cour, la cour de cet immeuble, il y a un puits, il y a de l'eau à moins de 1,60 m, c'est de l'eau pas salée. Et de l'eau qui est de l'eau karstique, donc cette eau-là, mélangée avec de l'eau de pluie et de l'eau des eaux usées qui descendent sans doute, là on ne sait pas trop comment, et qui atterrissent dans ce puits. Mais il n'y a pas d'eau salée. Et pourtant, là on est tout près du canal, hein, et c'est à 2,60 m, c'est-à-dire, au fait, c'est à la même hauteur que la place, mais en 2,60 m plus bas, quoi. Donc l'eau, elle n'est pas salée, elle n'est sans doute plus potable, Il y a un siècle et demi, elle était potable. C'était, il y avait des puits, c'était là que les habitants venaient s'abreuver. Il n'y avait pas d'eau, pas d'adduction d'eau. Donc, jusqu'en 1920, à peu près, l'eau qui était dans les puits ici, et autour de la place et sur la place, c'était de l'eau potable. On peut le situer jusqu'en 1920. Depuis 1920, il y a eu des adductions d'eau successives, donc les puits ont été fermés. Donc voilà, on ne sait plus. Et d'autre part, il y a eu pas mal de constructions sur le Mont-Saint-Clair, avec des fosses septiques, etc. Donc l'eau qui descend du Mont-Saint-Clair, elle est sans doute polluée. Donc l'eau qui est sous cette place, c'est de l'eau qui n'est pas salée, mais qui est sans doute polluée, qui est sans doute pas consommable, je veux dire. Mais de l'eau pour arroser, c'est très bien.
Quel serait l'objectif d'un texte de loi sur l'eau, ce que vous demandez ?
La loi sur l'eau, c'est un texte de loi qui existe, qui permet à une commune de faire une étude spécifique faite par les services de l'État sur l'état de l'eau dans cette commune, et notamment l'état des eaux souterraines, l'état des eaux de pluie, de la circulation de l'eau dans la ville et des réserves d'eau dans la ville. Et donc cette loi sur l'eau, elle est importante parce que si on obtient l'application de la loi sur l'eau, c'est-à-dire une enquête publique sur l'état de l'eau à 7, ça veut dire des travaux d'experts, hein, d'hydrogéologues, pour pouvoir étudier le cas de l'eau à 7, et parce que c'est vrai qu'on est dans un cas de figure particulier, parce qu'on a de l'eau de pluie comme partout ailleurs, de l'eau ruisselante, mais on a aussi ces eaux karstiques qui résurgent, donc, voilà, qui sont abondantes, mais à quel taux, on ne sait pas, d'autant plus qu'actuellement, avec la sécheresse, ça risque de diminuer, et puis des eaux salées qui remontent de la mer, donc d'eaux saumâtres. Donc on a ce mélange de systèmes d'eau ici à 7 et sur la commune, hein, pas seulement sur la place. Et donc, comment ça fonctionne, où ça en est, comment on peut protéger l'eau potable, ben, l'eau claire, l'eau claire, l'avantage, l'eau claire, l'eau naturelle, même si elle n'est plus devenue potable, à cause de l'habitat, hein, c'est un risque sérieux, c'est de l'eau qui peut servir à beaucoup d'autres usages, au jardinage, à l'irrigation, au lavage des voitures, même aux piscines. C'est de l'eau qui, même si elle n'est pas potable, elle est claire et elle est tout à fait utilisable. Puis, par ailleurs, on peut éventuellement, en usine, la rendre potable. Donc, si vous voulez, ces réserves d'eau, ici, sont importantes. Et en période de sécheresse annoncée, en période de réchauffement climatique annoncé, connaître notre ressource en eau et la manière de la gérer, c'est fondamental. Et là, actuellement, on est dans les... C'est pour ça qu'on demande l'application de la loi sur l'eau.
Concrètement, comment on fait pour demander l'application de la loi sur l'eau ?
On demande au service de l'État. Il faut qu'on soit plusieurs à le demander, qu'on fasse pression sur les services de l'État pour obtenir une décision de l'État en s'appuyant sur les textes de loi.
C'est donc la prochaine étape
C'est la prochaine étape.
Et
Greenpeace et le comité des usagers du cycle de l'eau, et peut-être d'autres, qui voudront se joindre à nous, parce que le problème, ça dépasse le problème de la place Aristide-Briand et du parking. C'est un problème plus vaste, c'est le problème de 7, en fait. Et des ressources en eau à 7, dans une période critique, enfin, qui risque de devenir critique. Et donc, c'est vrai que c'est d'un intérêt commun, quoi, j'ai envie de dire. Donc, c'est normal que ce ne soit pas que Banque Publique qui porte cela.
Et c'est un problème étendu à tout 7, vous avez dit, mais en ce qui concerne le parking Aristide-Briand, est-ce qu'il n'est pas trop tard, finalement ? Parce qu'on voit par votre fenêtre, justement, que le parking est déjà commencé. Enfin, le chantier est déjà commencé.
Écoutez, là, je crains que ce soit trop tard. Je ne veux pas être pessimiste, mais c'est mal barré, si je puis dire. On a affaire à des décideurs qui sont décidés à tout, puisqu'on a essayé de s'y opposer par tous les moyens juridiques. Et ils continuent d'avancer malgré tout. J'aurai plein d'exemples qui montrent qu'ils font le forcing. Donc je ne sais pas. On a quand même des possibilités actuelles. La seule possibilité qui nous reste pour l'instant, c'est pas directement la loi sur l'eau, ça risque d'être trop long, vous avez raison. Mais c'est l'expertise judiciaire qui est en route, qui est partie. Donc un expert nommé par le tribunal, qui est chargé d'expertiser les risques que représente ce parking pour les immeubles et pour les habitants. Donc ça y est, sa mission a commencé. S'il advient qu'il s'aperçoit qu'il y a un risque majeur, il peut obtenir du juge, du tribunal, puisque c'est un expert judiciaire, il saisit le tribunal, qui peut éventuellement demander la suspension des travaux. Voilà. On en est là.
Merci beaucoup.
Dans tous les cas de figure, c'est une catastrophe. Parce que c'est déjà une catastrophe.